Bonjour à tous, merci d'être venus avec nous écouter pendant deux heures Maurice Godelier, anthropologue, normalien, philosophe, un des pères fondateurs de cette maison. Donc Maurice Godelier, bonjour et merci d'être avec nous. C'est assez rare finalement dans ces séances toujours passionnantes, mais pas toujours directement liées à l'actualité, d'avoir un lien aussi direct. Et quand je suis venu ici, là, il y a quelques instants, sous la pluie, sur mon petit vélo, je suis passé devant plusieurs affiches appelant à une manifestation contre le mariage pour homosexuels, appelé par d'autres mariage pour tous. Et ce mariage vous met en plein cœur de l'actualité, puisque vous avez longuement abordé ces questions de parenté, que vous avez pris position dans plusieurs interviews, et hier devant l'Assemblée nationale, où vous avez été, je ne sais pas si on dit auditionné, c'est le terme, un côté un peu trop, policier, voilà, par la commission des lois, sur le mariage homosexuel. Alors au lieu de vous demander votre avis, ce qui est celui du simple citoyen, j'aimerais que ça vous donniez l'avis de l'anthropologue là-dessus. On a beaucoup dit que le mariage, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, homosexuel, pour tous, était une aberration anthropologique, ce contre quoi vous vous êtes, vous, élevé. Pourquoi ?
Alors, il y a quelques années, on m'avait déjà posé cette question, avant, quand ça démarrait, quoi. Et moi, en tant qu'anthropologue, et surtout j'ai une vision un peu comparative de centaines de systèmes de parenté, de formes de famille et tout ça, donc on connaissait des unions homosexuelles, en Afrique, en plus j'ai vécu dans une société où tous les hommes étaient homosexuels entre 9 et 20 ans, donc c'était pas pour me désarçonner.
Les barouillards en Nouvelle-Guinée.
Mais on n'avait pas la revendication chez les homosexuels des banques de données, et de ma connaissance, on n'avait pas une revendication de fonder une famille. On pouvait avoir des adoptions, mais c'était pas une institution, quoi. Ça pouvait être un cas, c'est pas une institution. Mais même quand on m'a posé la question il y a 5-6 ans au moins, moi j'étais je trouvais pas dans la littérature anthropologique la formule, et en plus moi j'étais hétéro, moi, donc j'étais pas très intéressé par tout ça, quoi. Et donc je me suis dit, et en plus j'étais infesté par la psychanalyse, l'image du père, le père réel, le père imaginaire, le père symbolique, etc. Donc ça vous ouvre pas forcément une comparaison dans la tête, ça. Donc je voyais que je faisais fausse route, et donc j'ai dit je vais prendre une perspective historique. Comment est-ce possible qu'en Occident une minorité parmi les homos, parce qu'il y a beaucoup d'homos qui ne s'intéressent pas du tout à fonder une famille, c'est des artistes ou n'importe, mais c'est pas leur trip, quoi. Comment est-ce possible que cette revendication de vivre sa sexualité et d'avoir une famille ait pu émerger? Donc je me suis placé dans une perspective historique et anthropologique, mais sans les tribus, Et j'ai vu que quatre lignes de transformation de nos sociétés occidentales s'étaient mises en place et un jour avaient convergé. Donc, vous voyez, c'était indépendant. Et donc, il n'y avait pas de préfiguration de rien du tout, mais la convergence a fait que c'est devenu possible. Alors, je vous explique, La première ligne que vous connaissez, c'est depuis le XVIIIe siècle, depuis Rousseau, qui d'ailleurs a mis ses enfants, je dis pas à l'hospice, mais il a écrit quand même l'Émile. Et depuis lors, il y a une valorisation de l'enfance et de l'enfant, mais qui aboutit à la Déclaration universelle des droits de l'enfant. Déclaration universelle des droits de l'enfant. Ce qui est un phénomène moderne, ça doit être 1959 peut-être, je me souviens, je sais pas. Bon. C'est une première ligne d'évolution qui n'a rien à voir avec le problème actuel. Sauf qu'aujourd'hui, le désir d'enfant
se trouve au centre.
Il est structuré de façon moderne. Ce n'est pas le désir d'enfant des paysans pour avoir de la main-d'œuvre à la familiale. C'est quelque chose de très structuré, nouveau. Et qui est chez les homos comme chez les hétéros. qui est chez certains homos et chez certains hétéros. Tous les hétéros ne veulent pas d'enfants non plus. Alors ça, c'est une première ligne. La deuxième ligne, c'était quand je me suis intéressé à l'histoire de la médecine et que j'ai vu aux États-Unis, 1935, en Angleterre, etc., en France, les médecins dépathologisaient l'homosexualité, qui était considérée comme une maladie à guérir. Donc, vous voyez, guérir un homo, il faut le faire. Le transformer en hétéro, c'est une souffrance terrible. Terrible. Échec, d'ailleurs. Ensuite, on a les psys, mais pas les psychanalystes, vraiment la psychologie, les associations américaines de psychologie, etc., transforment les choses. Ce qui était perversion disparaît du catalogue des perversions psychologiques. Mais quand vous dites que l'homosexualité est une perversion, vous êtes au bord presque de la religion. De la perversion au péché, on peut y aller, là. Donc ça disparaît aussi. Amérique, Angleterre, etc. C'est la deuxième ligne, on peut dire, scientifique. Ça n'a rien à voir avec la revendication d'aujourd'hui, mais c'est une précondition. Si vous prenez la troisième ligne, ça, c'est ce qui m'a le plus surpris. Il s'est passé que dans ma vie, je me suis intéressé pendant un an et demi ou deux aux primates, à la primatologie, pour savoir le statut des femelles, des mâles et tout ça. Enfin, et puis les primatologues parlaient d'échanges des femelles entre les bandes et tout. Des conneries incroyables parce qu'ils métaphorisent, mais enfin, passons. Et donc là, je découvre que les bonobos et les chimpanzés sont bisexuels. Pendant l'époque du Ruth, les femelles, bon, c'est hétéro. En plus, les femelles choisissent plutôt les mâles. Et c'est pas forcément le mâle alpha dominant qui gagne. Donc déjà, tout a été révisé là-dedans. Mais surtout, on découvre qu'entre les périodes de Ruth, vous avez les mâles se masturbent entre eux, les femelles se frottent la vulve et tout. Donc, en fait, ils sont bi. Ben, s'ils sont bi, on est bi. C'est ça qu'il faut dire, puisqu'on est aussi des primates, et on comprend pourquoi c'est le côté homosexuel qu'on a tous en nous, l'éducation, dans la plupart des sociétés, le refoule, ça va de soi. Mais dans certaines sociétés, on en joue, quoi. Alors, c'est Varouya, tous les hommes sont homos jusqu'au moment où ils sont mariés. Alors que si vous mettez votre pénis dans un vagin, vous pouvez pas utiliser les petits garçons et ils sont pas pédophiles. Oui. C'est une initiation. Donc, déjà ça. Et la quatrième, le troisième, ça c'est le domaine scientifique. La troisième voie que vous connaissez, c'est que dans les démocraties, une minorité qui revendique des droits pour elle-même sans que ces droits retirent rien aux droits de la majorité, ils ont des chances de gagner. Et quatrièmement, ça c'est très récent, c'est depuis 20 ans, c'est les nouvelles technologies qui permettent, alors ça déborde le problème de l'homoparentalité, c'est les mères porteuses, le fait qu'un homme stérile peut utiliser le sperme de quelqu'un, faire féconder sa femme, transférer dans le corps d'une autre pour avoir un enfant à eux. Donc c'est un peu dans cette, à cause de tout ça, que j'ai considéré qu'à l'intersection de ces quatre lignes que je viens de vous dire et qui se sont développées de façon indépendante quand même, il est possible à ce moment-là que des Occidentaux revendiquent de vivre une sexualité autre mais normale, et de, pour ceux qui le veulent, d'assumer ou d'assouvir, il faudrait me dire d'assumer, les fonctions d'élevage des enfants. Bon, alors pour les lesbiennes c'est plus facile, pour les gay people c'est plus difficile, il faut l'adoption, etc., etc. Mais du point de vue, si vous voulez, alors j'ai considéré ça comme une... Alors que mes collègues disaient tout est bouclé, tous les systèmes de parenté, on peut pas en inventer de nouveau, c'est terminé, c'est en boucle. Oui, alors, moi j'ai écrit Métamorphose de la parenté, voilà. Pas seulement pour les histoires, parce que les métamorphoses de la parenté se font en Chine aussi, il n'y a pas que chez nous. Mais il faut pas exporter ce qu'on est en train de faire en islam, parce que là vous allez avoir des problèmes. Donc j'ai appelé ça une métamorphose moderne de la parenté, et tout en n'étant pas du tout homosexuel, j'ai soutenu et je soutiens face à aux députés qui vont voter cette proposition de loi.
Donc l'humanité invente toujours de nouvelles formes de réglementation de la parenté, de descendance, de mariage, de...
C'est-à-dire, jamais on n'aurait pu penser, même dans les mythes, qu'il fallait deux femmes pour faire un enfant, quand même, non? Ça, c'est dur. Hein, bon. Et puis même, l'idée que des hommes acceptent que le sperme d'un autre féconde leur épouse ou leur compagne, avec les images de virilité, c'est pas évident non plus, hein. Donc il y a des métamorphoses profondes qui se font. Même la polygamie qui est institutionnelle dans les pays musulmans, on a le droit à quatre épouses et tout, finalement c'est la monogamie qui l'emporte en pratique. Donc c'est une évolution profonde aussi. Elle vient pas des intellectuels, hein, elle vient de la vie, c'est comme ça. De toute façon les homos, ils n'ont pas demandé une loi pour s'organiser. Ils sont organisés d'abord. Et après, ils ont demandé la légalisation de leurs pratiques.
Et cette normalité de l'homosexualité qui est en train de s'imposer, elle a déjà existé, et puis elle a été abandonnée, elle revient ?
Non, dans l'histoire de l'Occident, c'était condamné contre... Le christianisme n'aime pas les homos, quand même.
Mais avant ?
Dans l'Antiquité grecque, c'était évident, ça faisait partie de... Socrate était homosexuel, comme vous le savez, ça fait partie d'une éducation d'élite. Lesbos... C'est la ville de Lesbos, les lesbiennes qui étaient à la fois des poétesses et des homos, si on peut dire, eh bien, elles faisaient partie de l'aristocratie grecque, et ça ne les empêchait pas d'avoir des enfants, d'ailleurs. Ouais. Donc, vous voyez, un peu le... Non, il y a des... Bon, même en Chine, mes amis sinologues me disent que dans une certaine tradition chinoise, il y avait à Tao une voix pour les homosexuels, une voix du Tao, donc une voix de philosophique. Enfin, vous voyez. Donc le statut, on ne connaît pas. Puis alors après, l'homosexualité féminine, c'est encore plus difficile à analyser. La plupart des anthropologues ne se posaient pas ces questions. Et donc on ne sait rien sur l'homosexualité. Moi, je connais en Nouvelle-Guinée une ou deux tribus où il y a une homosexualité féminine rituelle, ce qui est très rare, et qui est jointive à l'homosexualité rituelle masculine. Mais j'en connais que deux tribus, il y en a au moins 1800. Donc vous voyez que c'est pas un phénomène... Mais ça existe. L'humanité invente localement des trucs, c'est tout.
La maternité et la paternité, du coup, sont-elles des fonctions qui peuvent être interchangeables ?
Pour donner la naissance à un enfant, à part l'utérus artificiel qui va arriver un jour peut-être et que je n'aime pas beaucoup, non. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous, on est le produit de papa, maman, la bonne et moi, hein. Nucléaire. Et le mot père, c'est un homme. Seulement, tandis que la tribu où je vivais, tous les frères des pères de mon père étaient des pères, donc eux, ils ne couchaient pas avec ma mère, ils avaient le même statut, et si mon père mourait, j'avais quatre pères de remplacement. Donc la paternité sociale était le prolongement de la paternité sociale et biologique. D'autre côté, ma mère et toutes ses sœurs étaient des mères, donc j'avais plein de mères là aussi. Donc, les enfants de mes pères et de mes mères étaient des frères et sœurs, donc je ne pouvais pas coucher avec. Donc, l'inceste, le tabou de l'inceste, était étendu des deux côtés. Au-delà, c'était des femmes épousables. Donc, toute société divise les femmes ou les hommes, pour une femme, en hommes épousables ou inépousables. C'est le tabou de l'inceste dans sa modulation. Donc si vous voulez, les fonctions de... D'abord, il faut donner aux fonctions de paternité, à part la conception et l'engendrement. Et encore, quand vous discutez avec les tribus et tout ça, la femme, elle est considérée souvent comme un sac. Et le sperme fait l'enfant. Ou bien, si les matrilinéaires, le sperme nourrit le fœtus, mais ne fait pas l'enfant. C'est le sang menstruel qui se coagule dans le ventre de la femme, il y a un esprit qui arrive et tout. Et donc, même l'idée, la présentation de la fabrication d'un enfant, ce que vous appelez maternité, paternité, c'est toujours à voir sur place. Et ça varie énormément. Quand Malinowski, qui était le grand anthropologue des trop brillants, lorsque les pasteurs américains sont arrivés et parlaient de Dieu le Père, les types se marraient. Dis-tu, Dieu le Père, non, mais ça va pas, non. Chez nous, les hommes, ça fait. Ils nourrissent le fœtus. Donc, s'ils nourrissent le fœtus, ils font l'amour quand la femme est enceinte. Alors que dans nos sociétés, il ne fallait pas faire l'amour quand la femme était enceinte, plus ou moins, non. Alors, vous voyez un peu tout ce truc. Alors, l'idée que Dieu était Dieu le Père, c'était très compliqué, puisqu'ils n'avaient pas la même notion de paternité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des fonctions de protection, d'élevage, fonctions d'amour et de. Bon, tout ça, ça peut se détacher des corps sexués que nous sommes, hein, hommes, femmes. Et il faut absolument qu'elles soient assumées. Donc, ce qui est intéressant, si on fait un peu de la méta, hein, un peu de la méta-théorie, quoi, c'est que les fonctions sont universelles. Donner un nom à un enfant. Est-ce qu'on le donne tout de suite à la naissance? Chez les Barouillas, c'est au bout d'un an. Parce que s'il meurt, on l'enterre comme un chien. Mais dès qu'il a un nom, il est dans la terre de la tribu. Hein. Bon. Donc, donner un nom à l'enfant, un statut, etc. Avoir des droits de répression et d'autorité. Bon. Protection et éducation. Si vous prenez cet ensemble de fonctions, qu'on appelle les fonctions de la parentalité, si on peut dire, elles sont universelles. Mais elles ne sont pas distribuées de la même manière que chez nous. C'est dur pour un député qui sort d'Ille-et-Vilaine de comprendre ça. Hein, je ne suis pas contre l'Ille-et-Vilaine.
Oui, mais enfin, quand lui, un autre exemple.
Oui, je pourrais prendre autre chose. Seine-et-Marne, si vous voulez. Mais qu'est-ce que ça veut. Ils peuvent pas, ils sont gentils, les députés. Ils sont sympas, quoi. Mais ils ont une vision qui sort du christianisme. Hein. Et l'émancipation s'est faite avec le code civil de Napoléon, mais qui reprend la moitié du code canonique. Et c'est seulement maintenant, à notre époque, qu'il y a une sorte de laïcisation plus complète du code civil en matière d'union des personnes. Vous comprenez? Nous, chrétiens d'origine, c'est la famille nucléaire, un homme, une femme, ok? Bon. Ça commence quand? Ça commence à la fin de la République romaine, au moment de la dissolution des gentes, des grands groupes de clans, quoi, patrilinéaires, romains, qui étaient aristocratiques, parce que le peuple ne se mariait pas, il n'y avait pas de mariage pour le peuple. Hein. La famille se décompose, enfin, nucléaire. Et le christianisme s'empare de cette famille petite, et va la sacramentaliser. Au XIe siècle, la promesse de mariage qu'on appelle les fiançailles doit se faire sur le parvis de l'Église. Un siècle plus tard, le mariage se fait dans l'Église et devient un sacrement où deux personnes s'unissent en Dieu et devant Dieu, à interdiction du divorce. Et la sexualité tournée vers la reproduction et pas vers le plaisir, qui est une source de péché, et bon, etc., etc. Donc, baptême, au début du christianisme, c'est le baptême des adultes, parce qu'ils peuvent décider de leur choix. Ensuite, l'Église impose le baptême des bébés, ils ont du mal à. Et on invente le parrain et la marraine. Parrain et marraine, qui sont père et mère, spirituels, sans sexe. Alors, si nous, on sort de tout ça, mes enfants, hein, ça fait une charge lourde de fantasmes, quoi, c'est de l'imaginaire tout ça. L'imaginaire qui a coûté très cher au corps humain et à la tête. Vous voyez mes sentiments, n'est-ce pas? Alors donc c'est comme ça, ça sort de tout ça, quoi. Et ça, on est en métamorphose par rapport à ça. J'ai vu la dernière statistique hier, 2011, hein. La majorité des unions sont libres, 480 000. Et 250 000 mariages. Donc le mariage ne disparaît pas, mais c'est pour une minorité. Avant, c'était presque une obligation. Hein. Donc vous voyez, cette sorte de déperdition d'énergie d'une institution qui ne meurt pas, mais qui n'a plus le même poids social, quoi. Bon, le mariage n'est pas une institution universelle. Dans beaucoup de sociétés, et un homme et une femme vont s'établir ensemble sous l'autorité et le consentement, avec le consentement de la communauté, mais il n'y a pas de rite. Tandis que nous, c'était un rite, etc., etc. Donc, vous voyez, il faut savoir. Et puis, ce grand truc, alors là, j'ose à peine le dire aux députés, mais je leur ai dit quand même.
Même ceux de Seine-et-Marne.
Et tout, même autour, vous voyez, l'Île-de-France même.
C'est dingue.
Et la famille n'est pas le fondement de la société, il faut arrêter ce truc, quoi. Faut arrêter, ça fait 2000 ans qu'on sort des trucs pareils. La famille ne peut pas faire la société, elle fait pour vous et pour moi notre jeunesse, notre formation personnelle, les premiers pas de la formation. Après, on devient ceci ou cela. Bon. Mais dans les tribus, ce qui fait société, ce n'est pas la parenté, alors que ça pèse beaucoup. Ce sont des rapports politico-religieux. C'est toujours des rapports d'initiation et tout, qui sont englobants. Tout le monde y passe. Quel que soit son clan, quel que soit son village et son lignage, tous les gamins à 9 ans y passent. Donc vous avez là une institution englobante qui traverse la parenté et l'englobe. C'est l'équivalent pour nous de l'État. De l'État, quoi, avec ses formules où la loi va être la même pour tous. Hein. Attendez, donc, il y aura quelques manifs encore, mais la loi sera la même pour tous, protégeant et réprimant. Alors donc, si vous voulez, moi je ne suis pas de ces anthropologues qui viennent me vendre la parenté tous les matins. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et j'étais obligé de constater dans mon expérience, malgré ma formation et malgré mes lectures, quoi, tout ça, que quand j'étais sur le terrain dans des sociétés tribales, c'était l'organisation politico-religieuse qui fabriquait le tout.
Est-ce que vous pensez, comme avec des gens, comme je pense à la féministe américaine Judith Butler, qu'on peut s'affranchir totalement de son corps? Non,
c'est des rigolades, ouais. C'est bien, c'est pour les intellectuels, ça. c'est pas possible, on s'affranchit pas de son... Enfin, bon, je sais très bien que...
Oui, qu'il y a une tendance.
Gender et tout ça, je connais par cœur, mais... Souvent, j'ai mes copines lesbiennes, donc je leur demande, dites-moi, quand une petite, là, elle commence à avoir ses règles, mais qu'est-ce qu'on lui dit? Tu vas t'affranchir des règles toute ta vie? Des conneries, ça, c'est pas possible. Il y a du corps, il y a des différences. C'est pas le problème. Ce qu'il y a, c'est que, en plus, il y a des lesbiennes qui se comportent comme des hommes, etc. Enfin, c'est compliqué, cette affaire. Donc, on peut se détacher de son corps sexué pour assumer des fonctions multiples, bien sûr. Mais se détacher, c'est pas supprimer.
Oui.
Alors, il y a des limites. De toute façon, moi, quand j'étais jeune, j'étais lié au MLF. Donc, le MLF, c'était un mouvement de masse à l'époque. C'était aussi bien les femmes qui travaillent au bon marché que les intellectuels. Maintenant, c'est devenu un peu intellectuel, votre truc, là, Judith Butler et tout. Et ça m'emballe pas, quoi. Je leur demanderai d'aller dans une tribu de Nouvelle-Guinée, tiens, ça serait...
Alors, avant d'y aller, nous, dans une tribu de Nouvelle-Guinée, est-ce que la violence du débat autour du mariage, pour tous, vous étonne?
Ben, c'est normal, quoi. Vous vous rendez compte? La famille avec toutes les émotions et les attachés, je comprends qu'il y ait des catholiques ou des gens islamistes, je ne sais pas, qui se sentent pas violés, mais que c'est dur pour eux. Et puis ils n'ont pas une vision historique, ils sont dans leur propre foi, donc c'est normal qu'il y ait cette résistance et ces oppositions. C'est tout à fait normal. Ça ne m'émeut pas particulièrement. D'ailleurs, leur inexistence serait étonnante. Ce serait étonnant, moi. Faut pas... Non, c'est normal qu'il y ait des manifs, quoi. C'est normal. Mais bon, c'est le politique qui tranche, mes enfants. Hein. Ouais. C'est le politique. Et une fois que ça sera tranché, les choses prendront un autre tour.
Et l'Église est dans son rôle, dans le débat
actuel. Bah, évidemment, parce que le mariage est un sacrement et que... Quand vous faites l'amour, vous n'êtes qu'une seule chair, et vos enfants, c'est la chair de votre chair, et le bon Dieu est avec vous. Donc, c'est normal, non c'est... En plus, est-ce que vous savez d'où vient l'âme?
Non.
Ben, vous avez tort.
Sans doute, vous allez me le dire.
C'est pas quand un homme et une femme chrétienne s'unissent, ils font qu'un seul corps, hein, une seule chair, una caro. Mais l'âme est introduite par Dieu. C'est la création. Si vous faites un peu de théologie, il faut quand même pas raconter des salades. La théologie chrétienne existe. Donc Dieu intervient dans chaque enfant à l'heure qu'il veut pour introduire dans le fœtus qui est le ventre de la femme une âme. Ok ? Malheureusement, cette âme, alors si vous n'êtes pas chrétien, je vais vous apprendre, cette âme se charge immédiatement du péché originel. Paf ! Le gars, il n'a rien fait, le petit, il a...
Sauf Marie.
Attendez. Faisons de la théologie pas à pas. D'abord, la mère de Marie, Sainte Anne, par Dieu, grâce à Dieu, a pu accoucher de Marie et d'un corps complètement pur, de tout péché. Donc le péché originel est suspendu, boum, à Sainte Anne, pour que Marie offre un corps pur de péché originel pour recevoir Dieu.
Et c'est ça l'Immaculée Conception,
c'est une double, c'est une double Immaculée. Vous avez la première, c'est Sainte Anne, et la seconde, c'est Marie. Passons là-dessus. Bon. On ne va pas faire un débat sur l'Immaculée Conception, mais sur l'âme.
C'est pas sûr qu'on tienne deux heures.
Hein. C'est l'âme. L'âme est introduite par Dieu. Dieu ne cesse pas de créer. C'est une création continue. À chaque enfant qui naît, Dieu est intervenu à l'âge, à l'âme, au temps où il voulait, à l'heure où il voulait, pour introduire, qui se charge du péché. Et donc, automatiquement, à la naissance, il faut baptiser l'enfant pour que son âme soit, à ce moment-là, lavée de tout péché et qu'on démarre dans la vie avec ses propres péchés pour être jugé. Vos propres péchés seront jugés, cher ami.
Qui sont très rares, heureusement.
Mais non,
je ne suis pas inquiet quant au résultat.
Vous n'en savez rien, parce que même l'intention est un péché.
C'est vrai.
Même l'intention. Donc, vos comptes ne sont pas terminés.
Alors, malgré cette vision fort pessimiste...
Moi, je suis très optimiste, parce que moi, je ne pêche
vous,
pas.
Vous, ça va.
Je suis pédard, tout à fait.
Alors, allons chez les barouillas. Donc les sociétés traditionnelles, enfin au moins jusqu'aux années 60, qui vit en Nouvelle-Guinée, dans les montagnes de Papouasie, société avec une forte domination masculine, société guerrière, et société dans laquelle vous avez vécu pendant plusieurs années. Alors j'aimerais bien, avant de parler du fond, c'est-à-dire de ce que vous avez observé, qu'on raconte aussi comment on devient observateur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous de débarquer chez les barouillas? Comment se fait la rencontre? Comment vous acceptent-ils? Comment vous passez du temps avec eux? Quel est ce temps?
Oui, d'abord, moi, j'étais pas anthropologue. Hein. Au départ, j'étais agrégé de philo, j'avais fait 2-3 licences, quoi, des trucs comme ça. Et je voulais faire de l'économie. Donc, j'ai passé du temps avec Malin Vaux à faire des modèles mathématico-économiques. Et alors à l'époque, vous remontez à 40-50 ans. Là. Il y avait la bataille entre économie planifiée centralisée, économie décentralisée de marché. Et on faisait des modèles mathématiques, j'étais avec des centraliens, tout ça. Et on faisait des petites équations, quoi. Ça nous plaisait. Mais j'étais avec les gars du commissariat au plan, parce qu'en France, il y avait un commissariat au plan à l'époque. Donc, à la fin, ça m'a beaucoup emmerdé, parce que c'était des abstractions. Puis en plus, je me trompais dans mes équations tout le temps. J'étais pas tellement bon en mathématiques, finalement. Donc, j'ai pensé qu'il fallait faire de l'anthropologie économique. Je sais pas pourquoi. Qu'il fallait aller voir l'économie dans une vie concrète, quoi. Et finalement, quand on regardait à l'époque, un jeune comme moi, qui regardait le tableau, là, je voyais que elle m'emmène sur, parce que les Américains, déjà, il y a 40 ans, piste d'aviation, poste de radio, liaison directe avec Washington pour les missionnaires, vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est pas la France, hein. Bon. Donc, moi, j'étais là avec mon sac au dos et tout. Et elle m'emmène sur la piste et elles me font voir une gigantesque montagne. Loin. Elle dit, vous voyez cette montagne? Je dis, oui, oui. Bon, eh bien, derrière, il y a un groupe qu'on a découvert qui s'appelle les Batilla. En fait, c'était le nom comme ça. Et on a un missionnaire là qui vient. Si vous voulez, c'était pas sur ma liste. Mais j'ai dit, ok. Paf, le lendemain, un Cessna vient me chercher. On m'amène à la base, au Karumpa. Vous aviez un franc prix et tout. Super, j'achète des couvertures, du pétrole, des lampes, etc. Et deux jours après, on me met
sur la piste
des Barouya. Et le missionnaire était là qui m'attendait. Ok, magnifique ce pays, magnifique. Hein. Bon, et je lui explique mon truc là, que je voudrais. Bon, un gars sympa, hein. Un gars sympa qui traduisait la Bible en Barouya. Faut le faire, hein, faut le faire. Au bout de 10 ans, il avait eu un converti. Donc, c'est un travail de patience énorme.
Il y a plus de joie pour une brebis qu'on ramène.
Oui, traduire la Genèse en Barouya, épouvantable.
Et ce n'est que le début.
Donc moi, j'admirais beaucoup. Et puis il était sympa comme type. Donc, il m'emmène à 10 kilomètres, là, chez lui, et je lui dis, je voudrais... Alors, il m'explique que les Barouya, c'est ici, mais c'est divisé en deux tribus, en deux parties. Cette partie est contrôlée par l'administration, mais si vous... de l'autre côté, ils ne sont pas contrôlés. Alors, évidemment, pour un anthropologue...
c'est tellement mieux.
Ma langue bavait, quoi. Je veux dire. Aller chez les types qui n'étaient pas contrôlés, c'était bon, quoi. Donc, le lendemain, je demande à deux jeunes gens de... Le missionnaire me fait venir deux jeunes gens pour m'accompagner parce qu'il veut monter à 3300 mètres. Et donc je monte, mais bon, même mon entraînement à l'agrégation de philo, tout ça ne prépare
pas. N'avait pas servi à.
Ça sert pas grand chose à ça, non ? Kant ne m'a pas servi du tout. Et donc je monte. Putain, c'était dur. Hein, c'était. Et à 4 heures de l'après-midi. Les gars, je démarre à 6 heures. Hein. Lentement, il n'y avait presque pas de route, c'est des routes de chasseurs et tout. Il faut monter, ça glisse et tout. À 4 heures, ils me disent, tu ne peux pas passer ce soir. Tu vas avoir très froid. On va te construire un petit abri, là. Mais tu vas crever de froid, toi. Donc, on va redescendre. Je redescends. Je vais coucher, c'est le missionnaire, là. Mais mon courage étant, le lendemain, je démarre à 6 heures et je suis passé. Et là, c'était éblouissant. Non, il faut le dire aussi, il y a des émotions quand même. Je passe, j'arrive dans la partie non contrôlée militairement et tout. Donc, des dizaines de gamins qui étaient armés, tout ça, d'arcs, de flèches... viennent me voir parce que c'est une attraction à blanc quand même, non ? Et tout. Bon, moi, j'avais mes 1000 mots de pidgin mélanésien que je parlais. Il y avait 3-4 types là qui pouvaient communiquer avec moi. Et alors, je passe de maison en maison, d'homme, de nuit en nuit, comme ça. Il y avait un mont volcanique, le fameux mont Yelia, 3600 mètres. J'ai essayé de monter là. Et j'ai pas pu. J'ai dû m'arrêter. Et là, mettons quand tu as 3300 ou 3400, de là, je voyais 150 kilomètres de jungle en dessous de moi descendant vers la Papouasie. J'étais dans l'intérieur des terres, mais je voyais pas la mer, mais je voyais. Et je voyais dans toute cette forêt des feux. C'est tellement impressionnant de voir très loin un feu qui s'élève. Hein, un petit nuage blanc. Et puis là, je savais qu'il y avait des hommes là qui vivaient. Putain, ils étaient loin de tout là. Et ça m'a donné quand même une émotion profonde. Donc après, je suis reparti pour visiter les différentes tribus qu'on m'avait sur ma liste. Je suis arrivé, bon, ça, j'ai fait du stop dans des camions et tout. Et je suis arrivé pas loin d'une tribu où quelqu'un qui était déjà un Américain que je connaissais, Bob Glass, qui était venu au labo, mais j'ai pas pu passer. Donc il y avait une rivière qui était en crue, c'était impossible de la franchir. Finalement, je suis revenu à Port Moresby et j'ai loué un Cessna. Et je suis allé chez les Barouillas qui n'étaient pas sur ma liste. Ouais. Et bon, c'est là que ça a commencé, quoi.
Et comment ils vous ont reçu? Alors, comment vous présentez ce que vous voulez faire?
D'abord,
comment ils réagissent?
Il y a un blanc qui était le chef de poste, qui était un connard, mais profond, hein. C'était un raciste. Un type qui, pour célébrer son mariage, a été le célébrer en Afrique du Sud parce que c'était l'apartheid. Vous voyez, c'est un gars vraiment ouvert, quoi. Mais ce type, bon, quand il m'a vu arriver avec mes valises, on peut dire mon Cessna, mes valises, mes couvertures et tout, il m'a offert d'aller jusque chez le missionnaire avec un tracteur. Il m'a évité le portage. Bon, là, j'ai expliqué au missionnaire que ça, ça y est, je voulais venir, quoi. Ma femme allait venir un jour avec deux enfants et tout. Donc, j'ai été m'établir. Sur la route de la montagne que j'avais montée, il y avait un endroit où on pouvait coucher, où les patrouilles, où les médecins pouvaient... Donc je suis resté seul dans la brousse, entre le village missionnaire et le dernier village qui m'intéressait, parce que c'était le plus loin des Blancs, etc. Là, je suis resté un mois, je faisais ma tambouille, j'achetais des trucs là. Et les gosses venaient des deux villages pour me voir. Alors je commençais à apprendre un peu la langue et tout. Bon. Mais quand j'allais pisser, ils étaient derrière moi et tout. C'était un spectacle. Hein. C'était vraiment... Bon. Et alors je leur expliquais que je voulais bien vivre dans le village du haut. Qu'ils s'y pouvaient demander à leur papa, maman, etc. Et au bout d'un mois, il y a deux hommes qui sont venus me chercher et m'ont expliqué, comme je pouvais, « Bon, viens, on va te mettre chez nous, là. » Alors, donc, je suis monté la montée, mais c'était des malins, quoi. C'était des gradins, le village était là, la maison des hommes était là. Ici, il y avait un marais en dessous, puis il y avait un marais au-dessus. Donc, il choisit une place dans le marais du dessous. Alors, je lui ai dit « Non, 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 pas du tout. » Alors, il dit, ça fait rien. Donc, ils me conduisent dans le marais du dessus. Alors, j'ai dit, non, 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 non. À la fin, ils en ont eu marre de moi. Ils ont dit, mais où tu veux être? Et donc, j'étais m'installé au milieu du village. Voilà. Et j'ai construit une maison.
Et là, il vous a fallu combien de temps pour arriver à faire oublier l'étrangeté de votre présence, si tant est que vous y soyez arrivé?
Bon, d'abord, si on est venu me chercher, c'est qu'on voulait un blanc. Un blanc, c'est utile.
Ouais.
On peut servir. Ça apporte du tabac, ça apporte des tas de trucs, du pognon aussi, si ils payent des couvertures, des machettes et tout ça. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais ils aiment, soit on est refusé, soit on est accepté. Et quand on est accepté, pourtant moi j'ai vécu des années avec eux, je les connais tous, j'ai la généalogie de tout le monde, etc. Il y a toujours eu une toute petite minorité de Barouilla qui voulait pas parler avec moi, quoi. La majorité m'avait accepté, j'ai été initié et tout, mais faut pas croire que c'est l'amour universel, hein. Bon, alors donc, c'est dur. Alors, j'ai construit une maison. Alors, à l'université française, à Normale Sup, on n'apprend pas à construire des maisons.
C'est assez rare, effectivement.
C'est très rare de faire une table, tu vois. faire des chiottes. Ouais. On n'apprend pas à l'université à faire des chiottes, tu vois. On est peut-être dans la chiotte, mais on n'apprend pas à faire des chiottes, tu vois. Alors, disons, j'ai passé 6 mois avec les gens à faire une maison pour pouvoir travailler, parce que les maisons des Barouillas, c'est très petit, les gens sont petits, t'as pas de lumière dedans, t'es suffoqué par... Si tu te mets debout dedans, tu es suffoqué par le foyer, par la fumée. Donc, je pensais à ma femme qui allait venir, donc j'avais acheté du plastique pour faire des fenêtres et tout. Bon, passons là-dessus. Puis après, j'ai eu un terrible accident. Et quand ma femme est arrivée avec les deux enfants, j'étais à l'hôpital de Port-Moresby, en train de crever. Quand je suis sorti de l'hôpital, cette fois de Sydney, j'ai bien soigné, transporté. C'est ma femme qui a... C'est Barnes, c'est un grand anthropologue à ce moment-là, qui est venu d'Australie. Il avait la chair de Sydney. Il est venu en Australie et il y avait, paraît-il, l'assistant de Lévi-Strauss qui était à l'hôpital. Donc il est venu et derrière mon dos, il a dit à ma femme, il faut qu'il parte, il va mourir. Et donc elle a téléphoné sans que je le sache à Lévi-Strauss. Et alors Lévi-Strauss a dit, vous partez avec lui, prenez l'argent qu'il faut, prenez 6 places d'avion et transportez-le à Sydney dans un hôpital. Et donc c'est ce que ma femme a fait, et on a découvert que j'avais une septicémie à staphylocoque de raie. Donc il y a 5% des gens qui, non pas qui ressuscitent, mais qui survivent. Donc je fais partie des 5%, mes enfants.
Bravo.
Donc, et au bout de quelques mois, j'ai été 4 mois et demi à l'hôpital, hein, en traction, j'avais la jambe cassée et tout, des bordels épouvantables. Et ils n'avaient pas voulu me soigner parce que ils pensaient que j'allais avoir la gangrène, donc en plus. Donc ils m'ont posé la question. Oui, ça c'est un peu la vie des anthropologues. Quand c'est pas le confort en Afrique, t'as des 4x4 et tout. Mais moi j'étais en Nouvelle-Guinée, il n'y a pas de 4x4 dans les brousses. Alors donc, ils m'ont dit, on peut pas vraiment vous soigner. Il faut attendre. Soit vous crevez, soit vous vivez. C'est bien, non?
C'est une alternative.
Et en plus, ils m'ont dit, votre jambe est cassée. Si on intervient, vous allez avoir la gangrène, on va la couper. Bon. Alors, devant ces opinions rationnelles, j'ai dit solennellement, je mourrai ou je vivrai avec ma jambe. Et j'ai survécu. Sans quoi j'aurais eu la jambe coupée, alors j'étais foutu, là. Donc, j'ai fait la bonne décision. Puis après, je suis reparti en Nouvelle-Guinée. C'était dur, hein, parce que c'est pas pour ça que je suis avec une canne. Hein. Ça fait 3 ans. Avant, j'étais comme un
cabri.
Dans la montagne et tout. Je suis reparti en Nouvelle-Guinée, en chez les Barouya, qui m'ont accueilli. Hein. Mais je pouvais pas presque marcher, j'avais une jambe atrophiée et tout. Et les mecs me portaient. Alors, si vous avez pris des photos à l'époque, un blanc sur le dos des noirs, ça fait colonial, vous voyez, ça fait un peu colonial. Ça n'a pas duré longtemps parce que je suis parti pour explorer la région. Et un jour, ma jambe, elle a craqué. Paf, je ne sais pas comment. Et j'ai marché. Donc tous mes muscles sont mis. Après, c'était une vie un peu militaire quand même, hein, de vivre dans la 2000, 3000 mètres, tout ça.
Mais est-ce que c'est une vie aussi où on adopte ce qu'est l'autre, où on reste soi-même? Est-ce que c'est compliqué, ça?
Écoutez, vivre avec les autres, c'est... vous n'êtes pas toujours là pour simplement faire du tourisme. Ouais. Vous êtes là pour comprendre autrui. C'est un métier. C'est un travail. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Il faut bien réfléchir. C'est peut-être pas marqué dans les livres. Et maintenant que je suis vieux, je vois bien tout ce qui manquait dans ce qu'on m'apprenait, quoi. Quand vous vivez avec les gens, quand ils m'ont foutu quelque part, tous les jours, je me levais, j'essayais de bouffer dans la journée, d'acheter des patates douces, on me les donnait d'ailleurs. Mais tous les jours, les gens se lèvent, hein, ils pissent un coup, ils vont travailler dans les jardins. Il y a donc une vie régulière et récurrente. Il faut vraiment être con pour pas comprendre, hein. C'est vraiment. Et ensuite, vous avez des événements qui vous attirent, vous avez un type qui tue sa femme, vous avez la maladie aussi, les gens sont malades, on vous appelle parce que j'avais des médicaments, tout ça. Donc vous comprenez, vous avez des faits cette fois non récurrents mais prévisibles, ok? Et ensuite vous avez des faits qui sont globaux, des initiations. Donc évidemment, quand j'ai appris qu'ils allaient avoir les grandes initiations, j'ai envoyé une lettre à ma femme elle était venue pendant un an, mais elle a eu tellement peur des serpents et tout. Et puis, j'avais 2 enfants qu'il fallait retourner à l'école. Donc, au bout d'un an, c'était bien. Et ils ont été marqués par ça. Hein, ils ont été marqués par la brousse, par les gens, quoi, tout ça. La vie, la chasse. Hein. Et donc, mais ma femme s'est tirée, elle en avait marre d'ailleurs. Et au bout de 2 ans, quand je lui ai annoncé que j'allais rester 1 an de plus, parce que les initiations allaient arriver, évidemment, elle a voulu divorcer. Donc, ouais, ça, c'est les risques du métier, hein, c'est comme ça. Alors donc, finalement, je suis retourné à Paris pour 1 mois pour raccommoder les morceaux. Et je suis reparti, bien sûr, pour 6 mois pour voir les initiations. C'est comme ça, un anthropologue crée des dommages collatéraux.
Ouais.
Et surtout, c'est les proches.
Oui. Mais est-ce qu'il en crée chez les gens qui l'observent ?
Alors, les gens qui l'observent, ils vous intègrent. Ils vous jugent tous les jours. Moi, j'ai merdé au début. C'était très intéressant. J'avais travaillé avec les gamins, j'apprenais la langue et tout. Et un jour, les vieux, enfin des hommes, quoi, m'ont dit, mais enfin, je vous traduis en français ordinaire. Non. Mais c'est toutes des conneries ce que tu as écrit là. Parce que les gamins, ils savent même pas le nom de leur grand-père, ou ils confondent tout. Donc vous êtes là avec vos questions rationnelles et tout. Donc j'ai dit, merde, je suis en train de merder, c'est pas possible. Est-ce que je retourne ou est-ce que je... Parce qu'il faut être clair sur soi. Hein. Et finalement, ce qui m'a sauvé, c'est cette anthropologie économique que je ne fais plus depuis des années. Je fais autre chose. J'ai décidé de cartographier les jardins et d'étudier tous les jours comment les gens travaillaient dans les champs. Qu'est-ce qu'ils plantaient et tout. Avant de partir, je m'étais fabriqué une petite... éducation, j'étais parti à l'École nationale de géographie, j'avais appris à cartographier, à utiliser la boussole, à transformer des distances obliques en distances horizontales et tout. Et donc j'ai commencé à étudier les champs tous les jours pendant 300 jours. Et c'est ça qui a été fabuleux. Les gens étaient fiers. Ils m'apprenaient le sol. Ça c'est bon. J'ai dit, mais pourquoi vous mettez le maïs là et tout. Et marche pas là, hein, marche pas là. Bon, je voyais pas pour ça. Ah non, ça c'est une plante sacrée. Ou mais qu'est-ce qui a défriché? Alors là, quand, alors le premier qui a défriché, un apport des heures. Donc, hein, et là, non, là c'est tabou là. Et donc, il y a des esprits ici. Et là, faire ça, on ramasse. Les gens étaient contents que j'étais avec eux tous les jours. C'était eux mes maîtres. Moi, j'étais l'élève. Et c'est ça qui est intéressant, il ne faut pas la ramener. Hein.
Oui.
Il faut se mettre en position d'élève, parce que les autres savent ce qu'ils font, et ils vous apprennent ce qu'ils font s'ils le veulent. Hein, s'ils le veulent. Et donc, il faut se mettre en position d'élève, et moi c'était pour moi des maîtres, et je prenais des notes, tout ça. Et lorsqu'on a fait des films, le dernier film que j'ai fait, j'étais parti avec Jean-Luc Laurie, et là c'était déjà moderne, c'était bien des années après mon premier... Là, ce jeune homme était parti avec des batteries solaires et une mini télé. Hein. On filme dans la journée et le soir, avec la batterie, on pouvait projeter. Alors là, c'était fabuleux parce que je me faisais engueuler tout le temps. Mais Maurice, tu m'as coupé. Je dis, on ne peut pas te filmer pendant 24 heures, on n'avait pas les moyens pour ça. Mais c'était fabuleux parce qu'une fois qu'il se voyait... Il me commentait, tu vois, je faisais ça parce que... Donc, il m'apprenait une fois de plus. Mais ils étaient furieux de ne pas avoir été photographiés pendant des heures en faisant leur truc. Moi, j'ai bien aimé ça, c'était bien, ça, c'est... Alors, bon, c'est bien, quoi.
Ces initiations, elles ont été difficiles à approcher, à observer, à comprendre.
Non, pas pour moi, en tant qu'homme, non. Non, c'est pas... Non. En plus, j'avais 2 enfants. Ils avaient vu que j'étais venu avec 2 enfants, une femme et tout. Ils ont même donné le nom d'un de mes enfants à leurs enfants, etc. Donc, non. Je sais pas, ils avaient confiance en moi, quoi.
Ouais.
J'avais confiance en moi. Puis en plus, je suis pas très curé, comme vous avez compris.
J'avais cru noter.
Donc, il y avait déjà 2 missionnaires qui étaient là et... qui venaient leur dire que ce qu'ils faisaient, c'était terrible, qu'ils avaient été habités par le démon. Il y avait même un missionnaire allemand, Wolfgang Tuschmann. Alors lui, c'était fabuleux, là. Je l'ai filmé. Il était aussi intéressant que les Barouillas. Parce un blanc chez les Barouillas, c'est pas mal non plus. Hein. Il était là, il avait fui l'Allemagne de l'Est. Hein. Et il était avec sa femme, Renate Tuschmann. C'était eux qui tenaient la mission protestante luthérienne. Hein. Et dans le fond de la vallée. Et alors j'assistais de temps en temps à leurs prêches pour voir un peu ce qu'ils apprenaient au Barouillas, là. Alors c'était des trucs incroyables, incroyables. Par exemple, traduire en Barouillas, j'ai fui le rideau de fer. Traduction en Barouillas, même en pidgin mélanésien, c'est très très dur. Bon. Et le type, il était un peu givré, quoi. Il leur expliquait que, vous comprenez, on sait bien, votre peau est noire. Ok, ça. Mais votre âme était noire aussi. Je suis venu avec Dieu et Jésus pour vous la blanchir. Des trucs incroyables. Alors, moi, je vois bien le blanchiment de l'argent, mais le blanchiment des âmes, c'était fabuleux. Donc, mais c'était démentiel, quoi. À la limite, mais c'est comme ça. Ces gens sont... Maintenant, ils sont tous chrétiens. Il n'en reste plus qu'un qui n'est pas chrétien. Il y a six églises maintenant américaines. Tous des fondamentalistes protestants. Merci. Hein. Mais le type qui reste habillé en Barouillas, il est habillé pendant la semaine en Barouillas, et le samedi, il se déguise en pasteur. Non, mais c'est super, parce que il est chaman pendant la semaine, il est pasteur protestant le samedi. Donc,
c'est une ouverture d'esprit.
C'est un inventeur, ouais. Il invente. Non, il faut pas se faire d'illusions sur la christianisation. C'est un mélange qui se fabrique et tout ça. Et de toute façon, ils sont venus avant mon dernier voyage, ma dernière présence. Beaucoup sont venus me voir en disant, Maurice, tu peux écrire notre nom là dans un cahier. Moi, je dis, pourquoi? Parce qu'il y a des protestants qui vont arriver, on veut tous se faire baptiser. Alors donc, on veut changer de nom. Alors je dis, ok, ouais, je vais écrire votre nom là. Alors, comment tu veux t'appeler toi? Moi, je veux m'appeler John. Ok, merci. John. Mary.
Kevin, non?
Non, c'était tous des noms bibliques quand même.
Ouais.
Hein.
Ah, oui.
Donc j'ai Sarah. Bon, c'est bien. Bon, très bien, je marque les noms, mais je dis, faites gaffe à vous. Hein. Maintenant, vous appelez, il va y avoir des dizaines de John chez vous. Dans les clans, moi je suis du clan des liés, donc je suis rattaché. Je sais quel nom je porte. À partir du moment où il y a des John partout, c'est plus pareil que les noms hérités dans les clans. Je leur dis ça, et ils connaissaient bien que je savais. Ils disent, ça fait rien, bon, c'est ok. Alors finalement, je leur dis, mais pourquoi vous voulez être chrétien? Pourquoi vous faites ça? Alors il y avait un jeune homme qui était brillant, tout ça, et il me dit, Maurice, on veut être des hommes et des femmes, on veut être des hommes nouveaux. C'est beau, hein? Alors je lui dis, qu'est-ce qu'un homme nouveau pour toi? Et alors la réponse, même un professeur à la Sorbonne n'aurait pas fait mieux, hein? Tu sais, Maurice, un homme nouveau, c'est ça. Je traduis, hein. Behind Jesus. C'est suivre Jésus et faire du business. C'est pas beau? La formule la plus moderne, au fond de la brousse, non? À la fois Dieu et le business. Alors moi, j'étais effondré, quoi. J'étais effondré de plaisir, même presque. C'est tellement. Au fond de la brousse, hein. Au fond de la brousse. Des gars qui... Ça veut dire... C'est ça, être chrétien, c'est pas une conversion théologique. Hein. C'est parce que ils veulent s'insérer dans un monde, quoi. Et comme les Blancs d'Australie sont tous chrétiens, je pense, sauf maintenant, paraît-il, dans certaines tribus, il y a des gars qui s'appellent Ben Laden.
Ouais.
Donc, c'est vrai, hein. Et bon... Donc l'islam aussi pénètre par l'autre côté, là, du côté de l'Indonésie, là. Mais bon, on voit, on comprend. Moi, je ne suis pas là pour changer les gens. Je ne suis pas là pour comprendre ce qu'ils font. Et je ne suis pas là pour leur... Je ne suis pas Che Guevara. Moi, je ne suis pas là pour faire la révolution. Je suis là pour voir quelles évolutions ils choisissent pour eux-mêmes. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Formidable.
Je voudrais qu'on revienne sur ces initiations que vous avez évoquées et qui sont passionnantes, parce qu'on rejoint le début de la conversation, et qu'elles mettent en scène l'homosexualité, alors ce que à tort j'appellerais une forme de pédophilie rituelle.
Surtout
et,
pas, si vous ne dites pas
voilà,
ça.
Voilà, mais je sais bien.
Éliminez
vous, vous allez me reprendre, mais c'est, on est dans un relativisme culturel complet par rapport.
Vous n'êtes pas député
non.
De droite.
Non, en Seine-et-Marne, il y a trop de
bon,
monde.
Ça va, c'est bien.
J'ai renoncé.
Non, c'est une... Qu'est-ce que ça veut dire, les initiations, le secret des initiations? C'est ça, c'est un immense fantasme qui a un poids énorme sur le psychisme et la conduite des gens. C'est l'idée qu'il faut refaire les garçons, les hommes, sans les femmes. Hein, c'est ça le truc. Le truc, c'est que s'il reste des éléments de féminin dans vous, vous n'êtes pas un homme, quoi. Vous n'êtes pas à la hauteur. Donc, l'idée, le secret, c'est cette... qu'est-ce qu'on appelle homosexualité, là? Les initiations, c'est 10 ans, jusqu'à 20 ans, 4 stades. 9, 12, 13, 12, 15, 15, 18, 18, 21, à peu près, quoi. Avec une barrière à la deuxième, troisième. C'est les gars, ils sont pubères. Donc, ils ont du sperme. Hein. Donc, l'initiation dans son secret, le plus secret, c'est les garçons qui ont du troisième et quatrième donnent leur sperme à boire aux petits de 9 à 13. Et même vivent en couple. Pour un certain temps. Donc c'est un peu érotico, machin. Hein. Bon, mais en même temps, le but c'est ça, c'est que, imaginez que les garçons de 19 ans n'ont jamais couché avec une femme. Hein. Donc leur pénis est vierge de toute pollution féminine. Leur sperme est pur de tout rapport avec les femmes. Donc l'imaginaire c'est ça, c'est que du sperme pur de tout rapport va être donné. Et ceux, ensuite, en grandissant, vont donner. Les donneurs ont été autrefois des preneurs. Et c'est une sorte de colonne, imaginez, une colonne de sperme pur qui fait que les hommes, sans les femmes, réinséminent les garçons et les font renaître. Donc l'initiation, c'est... Bon, c'est pas la Gay Pride, hein. On n'est pas à Paris. C'est du politique, là. C'est construire dans ce secret la domination masculine, la supériorité des hommes. En même temps, bon, moi je suis initié en partie, mais je suis même initié un peu plus que je devrais parce que comme les maîtres d'initiation, ils aimaient bien faire des séminaires avec moi. Hein. Bon, donc ils m'ont raconté des trucs que j'aurais dû apprendre un peu plus tard. Mais voilà, en gros c'est ceci. Au départ, vous avez toute une architecture énorme hein, d'initiation, des rituels complexes. Tous les gosses arrivent, tous les garçons, le jour de la séparation des femmes et des mères, c'est absolument... émotionnant, c'est toutes ces mères qui viennent avec un petit gamin là, qui est tout propre, elle a une cape d'écorce toute neuve, toutes les sœurs, toutes ces femmes qui sont là, puis les hommes qui sont là, deux lignes d'hommes qui sont avec le monde extérieur. Je vais l'interrompre si vous me permettez, parce que voilà, il y a des gens qui toujours vous appellent quand il faut pas. Bon, alors. Ça, c'est la suppression de l'autre intrusif. Et donc, la scène est extraordinaire. Hein, vous avez deux lignes d'hommes qui sont là, 100 mètres, 100 hommes, avec des épineux, des branches d'épineux. Et un homme, un jeune homme de 20 ans, justement, pas marié, descend en courant dans le couloir, là, et il prend un garçon, bien sûr c'est le parrain, si on peut dire, il le met sur ses épaules, il l'arrache à la mer, et il monte vers la jungle, vers la montagne, quoi, vers... Et là, il est fouetté. Donc, il porte son sang, et le sang de l'enfant va se couler. Hein, bon. Et donc, quand le gars, il arrive, le petit, là, on le met derrière, il est dans le monde des hommes. Alors, à ce moment-là, les hommes sont doux. Ils mettent des baumes, c'est-à-dire de l'argile, quoi, qui adoucit la plaie. Mais il est rentré... dans la douleur quand même, hein. Ils sanglotent, les gamins, là. Donc c'est pas la jouissance érotique, hein, au départ, hein. C'est vraiment l'inscription dans un monde d'hommes. Alors, bon, le sperme, c'est la force et c'est la vie, ok, puisque c'était patrilinéaire, donc ils pensent que le sperme fait l'enfant, mais pas tout, puisque ils pensent que l'embryon, ils m'ont expliqué, n'a pas de doigts, de nez. Ils ont vu les fausses couches. Ils pensent que c'est le soleil. C'est le soleil qui fabrique dans chaque ventre de femme la forme humaine complète. Donc, on a tous un père et plusieurs même, plus le soleil comme divinité. C'est pareil que Dieu qui fait une âme, hein. Là, il ferme le truc, là. Ok ? Bon, ça, tout ça, c'est compliqué. Bon. Mais quand vous allez plus loin encore avec eux, vous voyez que les hommes, ils ont une peur énorme des femmes. C'est pas... Pourquoi ? Parce qu'ils disent, on a volé aux femmes leur pouvoir. Et donc, les flûtes sacrées qui sont dans les mythes, qui sont dans les rites, je veux dire, le mot, pour les initiés, c'est vagin. Ils jouent du vagin. Donc, ils ont piqué les pouvoirs, et dans l'imaginaire tout ça, le pouvoir reproductif des femmes. Ils s'imaginent en avoir. Ok, donc déjà, ils pensent que les femmes étaient avant eux créatrices. Et après j'ai des mythes, qui, c'est les femmes qui avaient inventé les arcs, alors pour aller guerrier, mais les femmes s'en servaient abusivement. Donc les hommes, les pauvres hommes, ont été obligés de s'emparer des flûtes et des arcs pour qu'il y ait de l'ordre qui règne dans la vie. Vous voyez, ça vous semble pas moderne, ça, non ?
Oui.
On va mettre un peu d'ordre sur les femmes, un peu, parce que ça fout la merde, tout ça. Et donc, les hommes... Oui, mais quand je discute avec les hommes, ils me disent toujours... Enfin, pas tous, parce qu'ils ne sont pas tous capables d'analyser leur propre culture comme ça, quoi. Il y a des mecs plus forts que d'autres, hein. Et alors, finalement, vous voyez qu'ils me disent, tu vois, Maurice, si on n'initiait pas les garçons, si on ne les séparait pas des femmes, les pouvoirs des femmes repartiraient dans les femmes. Vous voyez ? C'est-à-dire, on est les usurpateurs usufruitiers, mais c'est les femmes les propriétaires. Donc s'ils n'initiaient pas en coupant, ça repartirait dans le corps. C'est génial quand même. C'est comme une boule de tennis qui sera accrochée à un fil élastique. On tire, on l'a dans la main, mais si on le lâche, paf, ça repart. Donc en fait, au fond de tout cet univers imaginaire, mais qui a des conséquences sociales et psychiques énormes, hein, il ne faut jamais oublier la formation de la subjectivité, hein. Eh bien, vous avez en fait une reconnaissance de la puissance féminine.
Et alors aujourd'hui, dans cette société que vous nous décriviez tout à l'heure, transformée, est-ce que ça existe encore et quelle place ont encore ces initiations ? Et par contre, elle a été remplacée là, si...
Pendant 14 ans, après mon départ, ils ont arrêté les initiations. Et depuis plusieurs années, ils sont les seuls à les avoir remises en marche. Donc ils sont à la fois protestants et ils ont refait les initiations. Donc, et les autres tribus qui avaient abandonné aussi, sont venus en spectateurs. C'est super, non? Donc là, j'en saurai plus parce que Pierre Lemonnier, Pascal Bonnemer, tout ça, ils retournent toujours chez les Barouillards. Ils interviewent systématiquement les... Alors, il y a beaucoup de changements. Les femmes... Déjà, quand je suis parti la dernière année, les filles, les garçons de la maison des hommes descendaient dans le village. Et il y avait un terrain de basket où les filles jouaient au basket. Révolution épouvantable. En plus, les jeunes initiés étaient assis, et comme les jeunes ici, ils étaient aussi cons, c'est-à-dire, ah, regarde comme elle a des bonichons et tout, tu vois. Bon, c'était pas d'un grand niveau, mais c'était choquant pour moi, vieux barouillard. Jamais un jeune homme n'aurait dû être au milieu de... Et surtout, jamais voir des filles avant de les épouser, n'est-ce pas? Donc déjà, c'était très bien. Bon. Ensuite, j'ai discuté avec des vieilles, parce que je ne vous ai pas tout dit, alors je vais vous en rajouter une couche là, tout de suite. Couche de secret. C'est qu'en fait, quand une femme accouche, elle revient et elle doit à chaque fois boire le sperme de son mari pour se refaire la vie. Même d'ailleurs, les barouillas sont très forts parce qu'ils disent que le lait des femmes, c'est du sperme transformé. Alors, moi, j'avoue que là, j'ai eu une discussion avec eux en disant, là, les gars, vous faites fort. Vous faites très fort parce que chez nous, le lait maternel, c'est la femme. Mais vous, le lait maternel, c'est l'homme, là, vous faites très fort. Donc, vous voyez comment on peut s'approprier le corps des femmes dans l'imaginaire. Mais ben, donc, alors, la dernière fois que j'étais là, les vieilles barouillas me disaient, Maurice, tu vois comme les jeunes femmes barouillas maintenant, elles sont maigres, elles sont... parce qu'elles ne sucent pas leur mari. Bon, je n'ai rien à dire là-dessus, mes enfants. Chez nous, ça pourrait avoir un autre sens, n'est-ce pas? Ouais. C'est marrant, par exemple. Alors, maintenant, elles sont toutes chrétiennes. Alors, elles sont toutes chrétiennes, donc elles sont toutes protestantes. Hein, et elles sont dans les sectes protestantes ultra, c'est-à-dire les sectes du sud de l'Amérique du Nord. Vous voyez, les gars de Virginie et au-dessous, là. Ceux qui votent pour l'ultra-Bush. Et donc... elles font des clubs de femmes maintenant. Elles vont au service, et après le service, elles se réunissent entre femmes, comme chez nous, de façon démocratique et pas protestante, pour discuter des affaires de femmes. Donc, il y a un progrès énorme. C'est tout ce que j'ai à dire.
Eh bien, non, pas absolument tout, parce qu'on va continuer. Il y a des fois comme ça où pendant ces séances, je me demande avec angoisse si j'arriverai au bout de mes questions. Là, avec vous, je vous rassure, il n'y a eu aucun problème, puisqu'on en a à peine abordé un dixième. Donc j'aurais voulu qu'on parle de Braudel, de Lévi-Strauss, qu'on parle du CNRS, qu'on parle de l'état de la recherche, du musée de l'homme, du Parti communiste, de ce que vous avez fait ici au Quai Branly, de Marcel Mauss, tout ça, de la Grèce où vous habitez, de votre regard sur la crise. Malheureusement...
Je réponds tout de suite à tout.
On va tout prendre. Non, mais en fait, on va ruser. Vous allez répondre aux gens qui vont vous poser toutes ces questions que je viens donc d'énumérer. Il faut qu'on ait tout fini dans une demi-heure. Donc, la parole est à vous. On va passer avec des micros. Levez la main de manière visible. Voilà, déjà, là, madame.
Il faut donner les micros. Hein.
Et on a encore une demi-heure à écouter avec bonheur.
Il faudra que je vous raconte des trucs quand même.
Ah ben si, allez-y. Madame.
Oui, je vous parlerai du CNRS après quand même.
D'accord.
Peu, hein, parce que ça m'intéresse. Puis quand j'étais jeune,
là,
j'étais...
Un peu plus bas.
Allez-y, donnez les micros. Que les porteuses et porteurs de micros se présentent. Voilà,
merci.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je vais faire une grande marche en arrière parce que je reviens à une conférence, enfin, une intervention que vous avez faite comme ça, que j'avais entendue à Beaubourg. Et vous aviez interrogé la salle Et vous aviez posé une question sur les religions et vous aviez dit, vous aviez posé la question à l'Assemblée comme ce soir, et vous aviez demandé quelle était la première religion existante actuellement au monde.
Quelle est la première religion ?
Oui. Vous vous souvenez que vous avez...
En quantité.
Ah, mais j'imagine que c'était en quantité.
Oui, en quantité, voilà. Si vous voulez, on est 7 milliards 300 millions, c'est ça ?
À peu près.
7 milliards 300 millions. Regardez, les chrétiens, hein, catholiques, orthodoxes, protestants, sont, paraît-il, 1 milliard 400 ou 1 milliard 400 millions. Les musulmans sont 1 milliard 100 millions, un peu moins donc que les chrétiens. Les bouddhistes sont près d'1 milliard 900 millions. Les juifs, alors là, c'est rien du tout, c'est 23 millions de personnes, hein, c'est la religion révélée, monothéiste. Ensuite, si vous allez en Chine, il y a un renouveau du confucianisme, mais c'est pas vraiment une religion. Le taoïsme repart, mais c'est dispersé, ça a été bloqué par les communistes. Donc, après, puis tout le reste, l'Afrique est devenue protestante de plus en plus en majorité. Mais bon, avec d'autres religions qui survivent et qui sont mélangées, quoi, c'est pas. Donc, si vous voulez, les religions monothéistes sont, malgré depuis Jésus-Christ, si vous voulez, ça fait la moitié de l'humanité. L'autre moitié est encore dans d'autres formes de religion, quoi. Mais ça fait quand même 3 milliards au moins de gens, quoi, ou 3 milliards et demi de gens. Mais les autres, non. Les autres, ils sont là comme les barouillas. Ils sont conquis l'un après l'autre par le protestantisme. Et si ça avait été l'islam de ce côté-là, ils seraient islamiques. En se modernisant, ils auraient pris la religion dominante des dominants. C'est tout, quoi. C'est comme nous, les pauvres Romains. Comment on était des Gaulois, c'est ça, non ?
C'est ça, oui.
On a été des Gaulois, paraît-il. Bon. Alors donc, on a été christianisés, romanisés d'abord et christianisés ensuite. C'est pas parce que des millions d'étoiles se sont allumées dans nos têtes, hein. C'est comme ça. C'est un phénomène social très important, la religion. Très important.
Vous faites la comptabilité par soustraction, par soustraction de grande masse. Mais c'est quand même très peu, c'est très, très surprenant. Quand on dit, sans le justifier d'ailleurs, parce que moi, quand vous aviez dit que la première religion actuellement, enfin religion, c'est pas une religion d'ailleurs, c'est l'animisme.
C'est ?
L'animisme, vous aviez dit, la première croyance,
oui,
c'est l'animisme.
Oui, c'est-à-dire les esprits de la nature, le soleil, la lune et tout ça. C'est là où j'ai commencé avec des gens qui croyaient en ça, puis ils sont terminés maintenant avec Jésus-Christ. C'est comme ça, oui. D'abord, écoutez, la religion a changé à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. Il y a eu une formidable transformation intellectuelle et sociale. On voit Confucius en Chine, on voit le Bouddha en Inde, plus tard ça va être Jésus, etc. Donc Jaspers a dit qu'il y avait une fracture dans le monde qui est la fin. Ça a dû être terrible, l'Antiquité, les empires, sumères, post-sumères et tout ça, des guerres permanentes. Et il y a eu un renversement. Quand je vois les mythes des Indiens, ils se tournent vers le passé, la séparation des hommes, des animaux. Quand je vois les religions du salut, on se tourne vers l'au-delà après la mort. C'est tout à fait nouveau. Mais c'est fondamental. Il y a eu une immense transformation de la religion et des religions dans leur orientation. Et l'hindouisme aussi. Hein. Comment on va renaître ? Comment on va renaître ? Et c'est pas seulement le christianisme. Qu'est-ce qui se passe au-delà de la mort ? Et donc, voilà ce qui s'est passé dans l'humanité. Les sociétés de caste, de classe, la violence, les villes, quelque chose de très dur du point de vue social, c'était pas le paradis, quoi. Il y a eu des aspirations des masses, c'est normal. La religion, je la respecte parce que tous les gens que j'ai vécu, avec lesquels j'ai vécu, c'est des vérités d'existence. C'est existentiel, leur croyance. Et ils croient quelque chose et ils veulent agir de sorte que ils agissent sur le monde comme ils croient, quoi, comme ils le croient, quoi. Alors moi, je ne suis pas pour juger les religions. Je suis là pour les analyser, les comprendre. Dans leur genèse, si c'est possible. L'histoire de religion, c'est compliqué. Mais j'ai bien vécu avec des gens pour qui c'est toujours une vérité existentielle. Après, vous pouvez exercer la raison là-dessus et la critique. Mais ce qui compte, c'est que les gens ils trouvent un chemin dans la vie là-dedans. C'est ça. Donc, vous voyez ma position. Mais les premières religions sont, comme on dit, animistes. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que partout le monde autour de vous a un sens, agit sur vous, il y a des intentions cachées. Si votre voisin meurt, c'est pas forcément parce qu'il a eu une pneumonie, c'est parce qu'il a été ensorcelé, etc. Vous vivez dans ce monde-là, quoi. Et ça s'est petit à petit fractionné par d'autres religions. Et quand vous êtes un peu rationaliste, évidemment, vous estimez, vous exercez une critique de l'extérieur sur tout cela comme étant des constructions imaginaires. Oui, mais moi, quand j'ai dit imaginaire, j'ai vu ce que c'était. C'était un mode d'existence, l'imaginaire. Ça devient du social, ça devient du psychique, ça devient de la vie. Et donc, ça a beau être imaginaire, ça ne l'est pas. Ça est imaginaire dans sa source. Mais ça devient réel dans la vie. Comme ça, la vie. C'est comme ça. C'est pour Madame, ça que, quand, moi, ça m'a amusé quand j'ai... Vous savez, j'avais fait une agrégue de philo quand j'étais petit. Et je me souvenais tout après que Kant, que j'admirais, avait écrit un livre qui s'appelait « La religion dans les limites de la simple raison ». Non, mais c'est des rigolades. La religion ne peut jamais être dans les limites de la raison, quand même, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. C'est au-delà, c'est ailleurs, quoi. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Oui, et vous allez répondre à une deuxième question.
Allez-y, madame.
Oui, monsieur Godelier, vous qui avez fait justement l'anthropologie après la philosophie, et apparemment pour ou par goût du concret, que pensez-vous des philosophes d'aujourd'hui? Que pensez-vous de la philosophie? Est-ce que c'est utile? Aussi utile que les anthropologues?
Alors écoutez, quand je suis revenu de 3 ans de terrain, parce que mon premier terrain ça a été quand même assez long, hein, 3 ans, ça. Je me souviens qu'Althusser m'avait envoyé une lettre en disant « Tu sais, tu dois être bien seul ». Je lui ai répondu, écoute, j'ai 600 personnes autour de moi, il y en a 40 toujours dans ma maison, donc la solitude, c'est quand même pas tout à fait. Bon. Je suis revenu, je me souviens, et moi j'avais fait avec Anguilhem un mémoire qui s'appelait... c'était sur Kant, Hegel, n'est-ce pas? Donc j'avais lu énormément, quoi. Et donc je reviens, je vois que la propédeutique philosophique de Hegel était en livre de poche, alors que quand j'étais parti, il n'existait pas. Je lis, j'achète tout de suite et je prends le métro. Retour de Nouvelle-Guinée, je prends le métro et je dis, je commence à lire Hegel. Première page, il m'explique que la liberté est infinie. Merci, ça, c'est parfait. Postulat, la liberté est infinie, c'est un postulat. Mais alors, donc, il recommence le truc dès le départ. Si je suis moi fini, mais à la fois je suis infini, c'est l'unité du fini, de l'infini, etc. Putain, j'ai laissé le bouquin tout de suite. Terminé. Alors, pour réfléchir, oui. Mais la philosophie, c'est loin de toute la réalité, souvent. C'est loin. Mais ça, ce qui me plaît, c'est, si vous voulez, par exemple, moi, mes auteurs préférés, c'est Aristote, par exemple. Hein? Ça, j'aime. Bon. Mais c'est aussi Locke, par exemple. Non? Kant, j'aime bien. Après, j'ai fait beaucoup de marques, c'est tout. Hein. Mais les philosophes n'avaient jamais posé en général la question des femmes. Vous voulez lire les philosophes? Vous pensez qu'ils vont s'occuper des femmes? Il y en a très peu, quelques-uns. Bon, donc, j'ai pris mes distances avec ça. Mais ça sert bien, hein. J'étais un bon philosophe, paraît-il. Donc, du point de vue méthodologique, c'est bon. On interroge sa méthode, sa démarche. On a donc une distance critique construite. La philosophie, pour moi, c'est le moment de la distance par rapport à soi. Maintenant, les systèmes philosophiques, j'en ai rien à foutre, mais vraiment totalement rien à foutre. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas passer mon temps à faire une thèse sur maintenant. Mais le moment critique, c'est le moment philosophique. C'est le moment philosophique. Mais on peut aussi avoir un moment poétique dans la vie. C'est des moments de soi. Alors, je ne vais pas cracher sur la philosophie, parce que tout le monde a besoin d'un moment de distance par rapport à soi, d'une évaluation critique de soi et de ce qui se passe. Mais ce qui m'a fabriqué bien, c'était quand même... La philosophie m'a permis, je pense, je ne sais pas, un peu les mathématiques aussi, un peu, à étudier les rapports. Des rapports entre deux rapports et tout ça. Donc là, je peux jongler avec les trucs, là. Alors là, c'est un outil. Est-ce que c'est la philosophie seulement? J'en sais rien, mais ça sert quand même. Hein. J'ai eu des bons profs de Santi, Villemin, tout ça. Non, c'était des gens bien. Mais je vous dis, je suis très loin de tout ça maintenant.
Oui, mais justement, quand vous dites rapport homme et femme, vous qui avez donc étudié ces barouillas très machos, que pensez-vous? Est-ce que c'est quelque chose d'universel, ce machisme, cette domination des hommes par rapport aux femmes, en tant qu'anthropologue cette fois?
Mais quand j'étais jeune... un moment d'agrégation où les philosophes n'ont rien appris sur les femmes, n'est-ce pas? Pas vraiment. Et en plus, j'étais jeune communiste, parce que je pensais que en changeant le capitalisme, vous voyez, la naïveté, si on transformait le capitalisme, le problème des femmes et leur subordination était résolu. Connerie épouvantable, bêtise. Mais on était comme ça. Alors, l'injection que j'ai eue de domination masculine dans une société sans classe, sans État, m'a ouvert les yeux que l'affaire avait commencé bien avant l'État et les classes. Et que la première humanité qui a été domestiquée, c'est la femme, si on peut dire. Vous comprenez? Attention, dans l'éventail des sociétés, il y a des sociétés comme les Nagovisis en Océanie et tout ça, où les femmes ont un pouvoir énorme, énorme, dans le village, etc. Même elles paraissent dans les initiations masculines. Elles piquent le pognon de leur mari quand ils vont bosser dans les plantations, c'est elles qui gèrent et tout. Donc des pouvoirs réels des femmes, qui sont presque inimaginables. Chez nous, on les conquiert maintenant, mais c'est des exceptions, hein. Mais ça existe, ça veut dire que l'humanité était capable de faire ça. C'est ça qui a été intéressant. Par exemple, en Vietnam, on a les Hades et tous ces groupes qui sont, disons, austronésiens, enclavés dans... Eh bien, c'est l'échange des hommes par les femmes. Hein? C'est carrément l'inverse de ce que disait Lévi-Strauss, mais c'est vraiment un échange aussi. Les femmes échangent leurs frères. Et donc, elles ont un pouvoir... politique locale, c'est sûr. Donc, on ne peut pas faire un tableau qui serait unique. Hein. Les variations de la domination masculine vont de sociétés où ils sont d'une violence énorme vis-à-vis des femmes, d'un dénigrement énorme, à des sociétés où les femmes ont un pouvoir public aussi. Donc, il faut faire gaffe au tableau, c'est modulé. Hein, c'est modulé. Mais en gros, c'est quand même général. C'est peut-être pas universel, mais c'est quand même général, la domination masculine. Et donc, ce qui se passe depuis quelques siècles, peut-être en Occident, c'est vraiment une mise en question de ça. C'est vraiment une mise en question. Alors, on impute aux femmes... Par exemple, c'était très intéressant, quand les filles sont allées à l'école des protestants, filles barouillas, hein, Elles étaient meilleures que les gamins. Bon, attention, sur un point, j'ai même vu un truc qui a choqué les barouillas. À la gymnastique, il y a une fille qui a couru plus vite que les garçons. Là, pour des mecs qui veulent être des guerriers, une fille qui courait plus vite, ils avaient honte. Mais évidemment, avant, les filles, on ne les mettait pas en concurrence directe avec les hommes. Comment voulez-vous juger de la valeur des femmes si elles font jamais ce que font les hommes? c'est simple. Alors donc, les choses ont beaucoup bougé et je trouve que c'est un grand progrès. En même temps, vous voyez les résistances dans d'autres cultures et tout ça. Mais on ne peut pas les exporter comme on a fait la démocratie en Irak. Hein? Vous avez vu ce que ça donne? C'est plus compliqué que ça. Et essayez d'aller expliquer maintenant en Arabie Saoudite, où les homosexuels sont lapidés, qu'on va passer la loi en France pour le mariage pour tous. C'est impossible pour l'instant. Donc. Et puis il ne faut pas se prendre non plus pour les héros civilisateurs. Hein. Les Occidentaux, tout le temps, quand ils font un truc bien, c'est le miroir de l'humanité. Non, ben non. Modulo. Hein.
Est-ce qu'il y a...
Enfin, pour moi, je veux dire, hein, on peut très bien. Je suis ni missionnaire, ni militaire, ni rien du tout.
Je ne sais pas s'il y a une autre...
Que toutes les bouches s'ouvrent, a dit le grand Mao Tse-tung. Hein. Personne pétrifié.
Monsieur.
Un homme là-bas. Allez-y, jeune homme.
Il attend le...
Ah oui, vous attendez le...
Le micro.
L'engin technologique. C'est pas la voix des masques, c'est la voix des figures.
Oui, moi j'aime bien votre idée que vous avez évoquée tout à l'heure en disant que derrière toute action ou matériel, il y avait tout un imaginaire qui était présent. Et donc je me posais la question, si on prend par exemple, à Paris, du matériel, il y en a beaucoup. Parlons par exemple de la technique que vous évoquez. L'imaginaire qui est derrière cette ultra-technicité qu'il y a partout à Paris. Comment vous le considérez? Est-ce qu'il est original, cet imaginaire-là? Est-ce qu'on peut le retrouver autre part? Ou je ne sais pas, quel est-il, hein? Qu'est-ce qui fait que cette technique se répand de façon... Qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà, écoute, il faudrait, si vous voulez, c'est une vraie question, et c'est une question scientifique complexe. Il faudrait déjà distinguer que quand vous avez une technique, vous avez deux aspects de la technique, un aspect idéal... Et un aspect matériel, si vous utilisez des forces de la nature ou des matériaux de la nature, des énergies et tout ça. Mais vous ne pouvez pas combiner une technique quelconque, comme un arc et des flèches, sans avoir une vision idéale de votre combinatoire et de son efficacité. Quand je dis imaginaire, j'ajoute un truc. L'imaginaire, c'est de l'idéal aussi, hein? Mais c'est un imaginaire qui n'aura pas, si vous voulez, de vérification concrète, à la différence de la flèche qui va arriver. Alors, mais ça existe. Dans les chaînes opératoires, dites chaînes opératoires techniques, on a vu qu'il y avait des gestes qui n'avaient aucune efficacité technique dans l'enchaînement, et qui étaient... un imaginaire placé au milieu, si on peut dire, d'un dispositif technique et matériel idéal, vous voyez? Ça concernait la vision qu'on avait de la nature et des forces de la nature et tout. Donc ça, c'est un imaginaire qui est une partie de l'idéal et qui n'a pas, sauf dans la tête, d'efficacité matérielle, vous voyez? Alors, quand j'appelle imaginaire, vous avez bien entendu tout à l'heure... Le sperme n'a jamais nourri personne. Hein. Ça fait des enfants, mais ça n'a pas... Et encore, on ne peut pas faire des enfants tout seul, n'est-ce pas? Donc, l'imaginaire, c'est toutes ces représentations greffées sur... Mais qui sont des vérités pour les gens. Attention, ce sont des évidences. Donc, ils ont une valeur de vérité. Il faut respecter ça. Pour eux, c'est des vérités... Donc des évidences. Alors comment on se défait des vérités et des évidences? Ça c'est un truc. Hein. Alors, je vais vous donner une anecdote. Quand j'étais chez les Barouya, il y a des enterrements, tout ça, on a enterré un grand... un maître des rituels, tout ça. Bon, je passe là-dessus, on fait une tombe, on fait un grand trou. Dans le trou, sur le côté, on creuse une galerie latérale et on enfile le cadavre là-dedans avec des couvertures neuves et tout. Hein. Vous recouvrez ensuite, vous faites un grand cercle lisse sur la terre. Et vous partez en courant, en jetant des bottes sacrées, parce que peut-être le cadavre, enfin l'esprit pourrait vous suivre. Bon. Mais vous devez revenir le lendemain matin à l'aube pour voir si le mort n'est pas sorti et s'il y a des traces sur le cercle lisse. Donc le lendemain matin, on est arrivé. Qu'est-ce qu'on trouve ? À 7 heures du matin, un mec était assis là, près de la tombe. Voltaire. Alors on lui dit, mais c'était un tchatché d'un clan, un jeune homme qui avait été justement en plantation et dans la ville. Alors on lui dit, mais qu'est-ce que tu fous là, là? Il dit, j'ai passé la nuit. Mais pourquoi? Pour regarder si le mort sortait de la tombe. Donc voilà un voltairien, il voulait une expérience concrète, il voulait voir si c'était vrai ce truc-là. Ben, il n'y avait rien, là, donc il n'était pas sorti de la tombe, quoi. Hein? Mais il était venu voir si c'était vrai. Vous voyez, dès qu'on se pose la question de voir si c'était vrai, on est foutu, là. On est sorti du cercle de l'évidence. Donc j'ai trouvé que c'était un gag voltairien, quoi. Un Voltaire Barouilla. Il est reparti chez lui. Est-ce qu'il était convaincu qu'il avait fait une expérience scientifique? J'en sais rien, mais bon. Voilà. Mais de toute façon, c'était un jeune qui était allé ailleurs. Donc, il était sorti du cercle, de l'évidence. Voilà. Catherine, tu veux me poser des questions?
Oui. Il arrive.
Ah ben, encore? Voilà, allons-y. Alors, Brodel, pourquoi Brodel? Ah bon.
Pourquoi Brodel? Mais on peut, oui, pourquoi Brodel, c'est vrai.
Pourquoi Brodel? Oui, c'était très intéressant. Vas-y.
Oui, je voulais revenir sur l'audition de 3 heures à l'Assemblée nationale hier. Il y avait, pour savoir si c'était quel type de député, tu as eu des mots assez ironiques sur eux. Qu'est-ce que ça fait?
Non, c'est pas ironique. Bah, écoute, enfin, j'ai fréquenté beaucoup de ministres comme toi. Et,
non, mais là, on parle des députés.
Et des députés. Oui, c'était majoritairement les députés de la majorité. Alors, il n'y avait pratiquement pas d'opposition là-dedans parce qu'ils sont.
Il y avait combien de femmes?
Combien il y avait de femmes, attends, dans ma tête? Il y en avait...
À peu près.
3.
Sur?
Sur 12 ou 15.
Donc la proportion de l'Assemblée.
Oui, elles ont posé des questions impertinentes.
Par exemple?
Non, mais on vous... Les femmes étaient surtout intéressées au-delà de au-delà de la question de la loi, déjà, elle posait la question des mères porteuses et tout ça, qui ne sont pas dans la loi. Donc, elle voulait savoir ma position là-dessus. Et elles avaient raison. Hein. Donc, bon, c'est plutôt vers ça que ça s'est posé.
Ben alors, je te pose la question.
Pour les hommes, c'était...
Quelle est ta position sur les mères porteuses?
Ah, moi, je suis pour, à condition d'être encadré profondément. J'ai beaucoup étudié la question... mais surtout à partir du Canada et des États américains qui ont accepté cette affaire, pas les États qui ont refusé aux États-Unis. Donc il faut l'encadrer. C'est-à-dire, moi, quand on me raconte l'histoire de l'Ukrainienne et l'histoire de la femme hindoue, que son mari, après avoir 6 enfants, il fait porter un enfant pour une blanche, j'en ai rien à foutre. On n'est pas en Inde, on n'est pas en Ukraine, sous un régime pseudo-communiste ou sous un truc de code de caste. On est dans une démocratie. Dans une démocratie, la loi doit donner des règles applicables à tous et faites pour tous. À mes yeux, je connais les déviations, il n'y a pas de loi qui ne soit contournée. Mais c'était mieux, supposons donc une femme qui fait des fausses couches, elle ne veut pas adopter un petit Vietnamien ou un Bolivien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle, son ovocyte est fécondé par son mari, transféré dans le corps d'une femme qui accepte de porter l'enfant. Tu sais, les contrats canadiens et tout ça, c'est en deux termes. À la naissance, my job is over, donc l'enfant ne m'appartient pas. On a eu des coups de femmes qui voulaient approprier l'enfant qu'elles avaient porté pour d'autres, etc. La loi doit instituer. Et deuxième terme, élément de la... Ça, c'est américain. Tu as une rémunération pour les risques pris, immunitaires et autres, et pour le... Bon. Et donc, elle est fixée telle sorte que ce ne soit pas un trafic d'utérus, une pornographie, une... Donc, c'était mieux, à mes yeux... C'est irréversible dans les sociétés occidentales. Mais ça doit être encadré politiquement, juridiquement et sociologiquement, c'est-à-dire dans la culture. Maintenant, est-ce que ça doit être payé, ou puisque en France, on serait prêt à accepter ça pour certains groupes de gauche, d'ailleurs. Moi, j'ai des problèmes puisque je soutiens ça depuis plusieurs années. Et dans le parti, et je ne suis pas au Parti Socialiste, mais Mme Agacinski, qui doit y être, j'en sais rien, elle m'attaque dans le Figaro en disant que je suis pas. Je vais marchandiser les utérus. Je vais commercialiser les utérus. Bon, passons. Là-dessus, il faut. Donc, il y a un groupe qui, au-delà de Mme Agacinski, demande que ça soit gratuit le service pour autrui. Aux États-Unis, il y a eu une enquête qui a été faite qui est très intéressante. Pourquoi vous êtes mère porteuse? 80% des femmes, mais on est en protestantisme dominant, hein. C'est pour donner la vie à autrui. Magnifique. Voilà. Ensuite, il y a 10% au moins des femmes qui disent « Je peux gagner du pognon en restant chez moi ». Donc c'est pas mal, c'est des pragmatiques, ça. Puis il y a un petit groupe de femmes qui dit « Moi, je suis tellement bien quand je suis enceinte que je voudrais être enceinte tout le temps. Bon. Je ne suis pas femme, je ne peux pas vérifier ce que ça veut dire. » Ça, c'est une enquête qui a été faite il y a 7 ans, 8 ans. Les choses ont changé. Le côté commercial a été combattu de plus en plus. Et je pense qu'il faut légiférer, il faut une position politique et juridique là-dessus. Il faut un débat de société. Mais pas des anathèmes, à mes yeux. De toute façon, les homosexuels adoptaient en douce. Les lesbiennes se faisaient faire un enfant. La vie agissait. Et puis après, on passe devant la loi parce que, putain, il faut plutôt... Donc, la vie a toujours choisi des trucs.
Donc, c'est la prochaine limite, celle-là.
La prochaine ?
Limite.
La prochaine limite, ça sera, en effet, ça. Pas en France tout de suite, mais dans 3 ans, dans 5 ans. C'est sûr. Mais bon, les Français avancent avec leur culture. Hein, c'est...
Alors justement, pour revenir aux députés de Marne-et-Vilaine...
De
Seine-et-Marne et Ille-et-Vilaine, qu'est-ce qui t'a fait dire qu'ils étaient issus du christianisme, d'esprit étriqué, etc.
Tu parles des opposants, là?
Non, je parle des députés.
Les députés dans l'ensemble.
Les députés, ben,
ils étaient ils étaient favorables. Il y a un des députés socialistes qui avait été un des fondateurs du PACS, donc un mec qui avait été engagé quand même dans un changement, qui est venu me dire après qu'il était complètement contre moi, pour les questions de mère porteuse, que ça, c'était inadmissible dans sa tête. Ok, why not? Ça peut changer. Non, c'est comme ça. Donc la majorité était favorable. J'ai cru comprendre. Il y avait deux femmes qui étaient des représentantes des Français d'étrangers, députées, je ne sais pas de quoi, et donc qui étaient plutôt ouvertes à tout ça. Bon, j'ai pas vu d'opposition vraiment majeure, mais c'est pas. Nous, on est là pour témoigner de ce qu'on sait, et c'est eux qui font ce qu'ils veulent avec ce qu'on dit, hein. Ils en servent d'argumentation entre eux, je ne sais pas, moi.
Mais 3 heures, quand même.
Comment ?
Ils t'ont gardé 3 heures.
J'étais pas seul, hein, on était 4. Elisabeth Badinter, Anne Cadoré et Françoise Héritier. Donc on a été interrogés. La position était pour. Oui, mais elle a fait un long discours qui a duré longtemps pour repartir au paléolithique sur l'échange des femmes. Alors évidemment, pour les députés, c'est pas tout à fait ce qu'elle allait dire. Surtout que les lesbiennes échangeaient les hommes et les hommes échangeaient les femmes. C'est un peu dur, mais passons. Chacun sa façon de passer, de penser et de parler.
On va prendre une dernière question, parce que le temps nous presse maintenant, monsieur.
Oui, Darien Pauvert, étudiant à l'École du Louvre en spécialité anthropologie. Je m'intéresse à l'anthropologie de l'art et de la culture matérielle, au sein du musée notamment, et je voulais connaître votre point de vue sur la question.
L'anthropologie matérielle et l'art.
De la culture matérielle, en lien avec les musées, comme ici au Cap-en-Lit.
L'anthropologie de l'art, c'est fondamental. C'est fondamental. Ce qu'on appelle art, en fait, vous avez eu ici, vous avez des productions merveilleuses. Là. Je sors de l'exposition Nigeria, j'étais traumatisé, moi j'adore. Mais derrière, il y a tout ce que ça représente pour les gens. Ils n'ont pas fait ça pour nous. Ils ont fait ça pour eux, pour vivre, pour agir sur eux-mêmes et sur la nature ou sur les autres. Enfin, donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'à travers un objet, où il est, c'est pas n'importe quel Africain qui fait un beau masque. Hein. Faut pas croire qu'un Africain, il ramasse un bout de bois, il fait un masque. Tout ça, c'est des conneries totales. J'ai entendu il y a 20 ans des gens qui disaient il n'y a pas d'art africain. Parce que ça signifierait qu'il y ait des artistes. On dénigrait aux Africains. Parce que tout était sacré. Donc, c'est quoi? C'est sacré. Et alors, tous les Africains qui croient aux mêmes choses, ils vont faire des masques. Ça n'a pas de sens. En Nouvelle-Guinée, c'est pareil. Donc, la production d'un objet dans lequel se matérialisent des imaginaires et des rapports sociaux complexes, c'est quelque chose de très, très important.
C'est le reflet de.
Comment ?
Culture, d'une société.
Oui, mais bon, c'est le créateur qui crée ces formes-là.
Le créateur qui lui-même...
C'est pas... Vous comprenez, c'est très compliqué. Oui. C'est pas à partir d'un mythe que vous créez une sculpture. Il faut que le sculpteur puisse inventer une matière et une forme qui va représenter un dieu ou n'importe quoi, un ancêtre. Ça, c'est la création. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. C'est très important, quoi. Et dans l'éducation scolaire que nous avons, dans les lycées, l'art a été supprimé. Hein? L'éducation artistique qui est fondamentale a été supprimée. Quoi.
C'est au collège, effectivement.
Au collège, enfin bon, c'est pas... Ouais. Et puis l'Inde, c'est la photo du Taj Mahal. C'est quoi ça? Moi, je veux une refonte complète des manuels d'histoire pour que l'anthropologie et l'histoire se combinent dans un monde globalisé.
Je suis absolument d'accord, ça c'est fantastique.
Alors, maintenant, si vous allez demander aux inspecteurs généraux d'histoire de modifier les manuels qui sont faits par Belin à 500 000 exemplaires, je vais avoir des problèmes. Les résistances sont énormes. Et pourtant, ça ne peut pas durer.
Oui, mais c'est exactement
ça. Ça ne peut pas durer. Les jeunes ne peuvent pas continuer à avoir des manuels comme ça. Ce n'est pas possible.
Mais l'École du Louvre, par exemple, qui a une démarche autour de l'histoire de l'art, le lien avec l'anthropologie, puisque je suis en spécialité d'anthropologie, et il me semble très important et essentiel pour comprendre la production. Et donc, ce que vous dites, c'est exactement.
Mais moi,
ça.
J'ai créé. Je suis encore prof à l'École nationale des beaux-arts. J'ai créé les fondamentaux de l'histoire et d'anthropologie. J'avais fait venir avant sa mort. J'étais tellement heureux. Jean-Pierre Vernant, qui est venu expliquer aux jeunes ce que c'est qu'une icône et eidolon. Idole. Et bon, c'était merveilleux, quoi. Et ils sont contents. Les jeunes artistes sont contents. Ils sont moins académiques que les gars qui passent leur PhD, leur thèse, parce qu'ils travaillent avec des vidéos, ils travaillent avec des matériaux et tout. Et ils sont assez intéressants. C'est un public de jeunes très intéressant. Et je leur fais pas de l'anthropologie de l'art. Hein. On part carrément de la parenté et tout, les trucs comme ça. Et bon, ils suivent, et c'est bien. Donc, c'est le seul, d'ailleurs, la seule école des beaux-arts en France où il y a un enseignement d'anthropologie, quoi. Et avec une licence, vous vous rendez compte, ils peuvent faire avec moi une licence. C'est marrant, quoi. Non, non, c'est bien, c'est bien.
Bien, je suis désolé.
Ben, encore une fois, pas
on peut.
La dernière question.
Bon, alors vraiment la dernière, parce oui, qu'on doit rendre la salle, il est l'heure.
Je dis deux écoles, parce que tu es intervenu au Havre, et on continue.
Ah oui, mais toi, mais ben, je ne parle pas de toi.
Non, non, deux écoles.
Lui, il est sculpteur.
Deux écoles.
Oui, bon. Mais je n'ai pas eu un enseignement chez toi. J'ai fait une conférence.
Tu as fait une conférence et tu nous as, on a ouvert.
Mais ce n'est pas pareil qu'une continuité. J'entends. Alors, je voudrais vous dire quelque chose pour, quand même.
Allez-y, allez-y.
La question de Brodel. En fait, je n'ai pas commencé par être maître assistant de Lévi-Strauss, mais j'ai été chef de travaux et maître assistant de Brodel.
De Brodel, oui. À l'école pratique des hautes études.
Voilà, et j'étais viré par Brodel. Viré par Brodel et transféré à Lévi-Strauss. C'est pas mal, non?
Ça va, ouais, il y a des exclusions pires.
Il y a pire. Passer d'un compte chèque à l'autre. Mais non, mais c'était marrant parce que, en fait, après, à la grecque de philo, le jury m'a demandé qu'est-ce que vous voulez faire. J'ai répondu de façon gentil, mais ferme, surtout pas de philo. Alors le jury, ils vous disent, vous êtes premier à l'oral, mais qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Je dis, surtout pas de philo. Ah bon? Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, je voudrais bien faire autre chose que la philo, parce que les philosophes ont toujours, à part peut-être Hegel, pensé sur autre chose que la philo. Ils ont philosophé sur quelque chose, quoi. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? C'était sympa, c'était encore féodal, quoi. Alors donc, je dis, je suis pas très bon en maths, parce que j'ai fait mon diplôme de mon DEA, il y avait un DEA à l'époque, avec Anguilhem. J'aimerais bien faire médecine, mais je vais me marier, je suis marié, donc ça va encore me prendre des années. Et en plus, bah, du point de vue politique, je suis plutôt à gauche, je vais faire l'économie. Alors le jury dit, on vous donne une année d'école normale supérieure pour faire de l'économie. C'était sympa, non? Bon. Donc, j'évite le poste d'agrégé de philo dans un lycée, comme ça, non? Je vais m'inscrire en septembre. Je suis agrégé en juillet, je sais pas quoi, en juin. Je vais m'inscrire à l'université en économie, première année. Au bout de 3 mois, je me suis tiré. C'était tellement con, c'était pas possible. On me faisait réciter pour avoir 10 sur 20. On me donnait des polycopiés que je devais réciter, c'était des conneries épouvantables. Donc je suis parti et j'ai été allé, c'était heureux quand même, au centre d'études et de programmation économique dirigé par Malinvaux. Alors vous vous rendez compte, j'étais qu'avec des polytechniciens et tout qui préparaient le commissariat au plan. C'est là que j'ai fait mon truc. Et pendant l'année, des tas de gens me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine?
Quand tu seras grand?
Je ne sais pas. Et donc, les gens, Pierre Villard, la Sorbonne, d'autres gens, Villemin, tout ça, me disent, écris à Brodel. Moi, j'écris à Brodel, je ne connaissais pas. Et il me reçoit encore rue de la Boétie, là-bas. Et il me dit, je vous reçois avant de vous dire non. Putain, ça démarrait mal, là. Ça démarrait mal. Mais j'ai reçu beaucoup de lettres de collègues en votre faveur, alors je voulais vous voir. Alors il commence. Qu'est-ce que vous pensez de Descartes? Putain, ça. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de Marx? Doucement, là. Etc. Et d'un seul coup, il décroche le téléphone. Et il appelle Velay, qui était l'administrateur général. Et il dit, Monsieur Velay, oui. Là, j'ai un jeune homme devant moi, là. Mettez-le sur la liste, comme chef de travaux. Ah bon? Putain, j'étais un peu impressionné quand même, non? Vous voyez le féodalisme d'autrefois, des grands hommes, là. Et alors, il me regarde, il me dit, vous avez entendu? Je dis, oui, mais monsieur... Je vous remercie. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Mais est-ce que je dois aller à vos cours? Si vous voulez, cultivez-vous. C'est pas beau ça, non?
C'est très beau.
Après, évidemment, ils me viraient parce qu'on n'était pas d'accord. Ouais. Et j'ai appris plus tard qu'au conseil scientifique de l'école des études, ils avaient discuté de mon sort sanglant. Et Lévi-Strauss, j'avais écrit 3 articles sur la structure du capital. Et Lévi-Strauss m'avait envoyé une lettre que moi je ne connaissais pas, en disant, oui, quand j'étais jeune, j'avais travaillé sur le capital, c'est vrai. Bon, je vous dis ça comme ça. Et alors, paraît-il, au conseil scientifique de l'école, quand Braudel a dit sa colère contre moi, mais pourquoi, j'en sais rien, il m'avait dit un jour, vous êtes trop abstrait pour moi, Godelier. Bon, très bien, je ne sais pas. Et donc, Lévi-Strauss a dit, écoutez, il va venir avec moi parce que... Alors, je reçois un coup de téléphone du monsieur Velay. Monsieur Maurice Godelier, oui, monsieur Braudel vous fait savoir que vous n'êtes plus son maître assistant. Quoi. Mais vous êtes maintenant le maître assistant de Lévi-Strauss. Putain, mais moi j'étais au-dessus de... J'étais dans mon petit bureau, là, au-dessus de Braudel, d'ailleurs. Alors je regarde dans le bottin où habitait Lévi-Strauss. Et je téléphone, mais je ne savais pas qu'on ne téléphone pas Lévi-Strauss après-midi. Il rentre à 2h jusqu'à 7h, il écoute de la musique, il écrit, quoi. Alors moi je téléphone, monsieur Lévi-Strauss, oui. Je viens d'apprendre, je m'excuse de vous téléphoner, mais je viens d'apprendre que je deviens votre maître assistant. Mais bien sûr, mais monsieur, je ne vous serai jamais imposé. Bon, c'est comme ça. Il me dit, non, est-ce que vous êtes libre vendredi? Oui, 8h moins 5. Vous pouvez venir me voir à mon bureau? Et alors là, donc je suis allé vendredi à 8h moins 5, hein. Et il m'a dit, écoutez, voilà, je sais que ce que vous faites, en gros, anthropologie économique, ça vous intéresse. En fait, j'ai besoin, comme vous... Alors, il m'a parlé le langage que vous allez comprendre. En fait, vous savez bien que je m'occupe des superstructures, puisque je m'occupe de la parenté et des mythes. J'ai besoin d'un jeune qui s'occupe des infrastructures. Boum. Alors, j'ai trouvé ça très bien, parce que je voyais un peu le mécano, le type qui démonte les moteurs et tout, là. Il les fait pas tout à fait marcher ensuite. Et bon, donc je suis parti comme c'est pour ça que je suis parti ensuite avec l'étiquette que j'avais voulu d'anthropologie économique. Et ensuite, mais voyez le passage Braudel, tout le monde m'avait dit Furet, mais t'as aucune chance. Pourquoi il m'a pris? J'en sais rien. Et ensuite, je suis transféré. Mais quand même, c'est pas mal, le beau transfert, non? Et après, je vous raconte tout ça. Et après, on devient anthropologue. Ensuite, je veux aller, donc, vous savez tout. Je voulais, à cause de métro, il se suicide. Lévi-Strauss me donne la Nouvelle-Guinée et je me retrouve chez les Barouillas. Est-ce que vous avez le cheminement?
On a fait le lien, là. C'était naissance d'une vocation, donc, par Maurice Godelier. Voilà, merci d'être venu nous raconter tout ça.
Beaucoup de chance. Vous voyez, vous voyez, il y a beaucoup de chance dans la vie. Beaucoup d'événements contingents qui déplacent les choses. Il ne faut pas croire qu'on gère sa vie. Hein. Elle se fait morceau par morceau, souvent par des rencontres et tout ça.